RMC.
After Lyon.
Le podcast
Nicolas Jamain.
Et bonjour à tous, inconditionnel de Cédric Bardon et Jean-Marc Chanelet. Bienvenue dans le podcast After Lyon. Avec nous cette semaine, coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Et bien sûr,
et salut à tous.
Notre correspondante Rhône et Saône, Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nico, salut coach. Bonjour à tous.
Au programme de l'After Lyon, messieurs, l'OL giflé à domicile par Rennes. On va faire l'évaluation, bien sûr, dans un instant de la défaite 4 buts à 2. Essayer de comprendre ce naufrage. Se poser cette question également. Lyon a-t-il dit adieu au podium à Dijon et de la fin, voire à toute place européenne également. On va en débattre. Et puis Peter Boss, est-il l'unique responsable de cette triste 10e place de l'OL cette saison? C'est parti pour le taulier lyonnais.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Y a-t-il, merci Jean-Michel, y a-t-il un bolide, les gars, cette défaite? Moi, j'en vois pas personnellement, mon cher coach.
C'est-à-dire un bolide?
Un taulier.
Ben non, un taulier dans ce match-là, oui, à la limite. Dembélé qui n'a pas été,
ouais,
qui a pas été trop mal, mais sinon le reste, c'est même inexplicable d'avoir, si tu veux, ce niveau-là, 4 jours après. Alors, on peut quand même remarquer que j'attache toujours de l'importance aux équipes qui ont joué 3 ou 4 jours avant. Et donc, mais Rennes aussi avait joué, même avec un jour de moins de récupération que Lyon. C'est tout simplement inexplicable. Et ce n'est pas dans ce match-là que je changerai mon avis sur l'importance d'un poste dans le football. On le voit dans plusieurs équipes, qui est tout simplement le poste de gardien de but. Et Lopez, qui faisait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois un très bon parcours, là, sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je ne dis pas que c'est le responsable, mais c'est l'un des responsables de cette déroute.
Donc c'est emboulé, j'ai l'impression.
Vu l'importance du poste, oui.
T'es d'accord avec lui ou pas, mon cher Edouard? Est-ce que t'as un taulier déjà avant de nous donner ton
taulier? J'étais sur Moussa Dembélé, alors un petit taulier, hein, forcément, mais je trouve qu'il a pas relâché ses efforts. Il a fait du pressing jusqu'au bout. En plus, bon, bah, il a été buteur sur penalty, et puis c'est pour l'ensemble de son année 2022, hein, où il marque quand même 6 de ses 10 buts actuellement, donc en 2022. Voilà, pour ça, même si c'est un petit taulier, je tenais quand même à le mettre en taulier. Puis après, parmi les flops, oui, il y a le choix, hein. Alors Anthony Lopez, je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie de le mettre, parce que quelque part il a tellement sauvé la saison, mais il y en a d'autres, quoi. Tanguy Ndombele,
oui,
Lucas Paqueta,
je suis d'accord, mais surtout
Tanguy Ndombele.
Là on parle d'un match, c'est-à-dire un match qui est pratiquement un match à 6 points, très très important. Et là il y a aussi la responsabilité d'un entraîneur dans les résultats. Mais là, dans ce match-là, quand je vois les performances individuelles de chaque joueur de Lyon, qui, en plus de ça, étaient à leur place. Là, on ne peut pas dire que les joueurs n'avaient pas leur point de repère. C'est pratiquement la même organisation. Après, ce qui se passe à la mi-temps, même si c'est peut-être presque trop tard avec ce 3-0, là, on peut en discuter. De passer à 3 arrières centraux avec Malo-Augusto arrière central côté droit. Ok, là on peut quand même en discuter. Mais sinon, sur la première mi-temps, on est déçu des Lyons, mais on est obligé de dire bravo Rennes.
Ouais, c'est même pas la première mi-temps, c'est les 13 premières minutes,
oui,
coach, quand tu es entraîneur.
Oui.
Tu mets en place une équipe, tu mets en place un jeu, tu dis en conférence de presse la veille, attention, on a pris une gifle, 4-1 à l'aller, moi je m'en souviens encore. On imagine que la causerie c'est là-dessus, on imagine tout l'aspect vidéo aussi c'est là-dessus. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs font une entame catastrophique. 11e et 13e minute, il y a déjà 2 ou 3 marées, et les 2 premiers tirs cadrés vont au fond. Donc c'est cette entame-là, et le match, quand il commence à la 13e minute avec 2-0, ils ont du mal à s'en remettre. Du coup, ça fait une demi-heure. Après, tu marques ce but. Alors, il y a Lopez, mais c'est Thiago Mendes qui lui met une balle qui est très difficile pour un gardien. Tout le monde s'y met à ce moment-là. Et tu le dis souvent, coach, hein, le troisième but dans un 2-0 est souvent très important. Et là, ce troisième but, il est arrivé pour l'équipe qui mène déjà 2-0, et en plus dans le temps additionnel de la première période.
Même si c'est compliqué, après 2-0 contre une bonne équipe, contre Rennes, ça fait rien. là, c'est loin d'être terminé. Tu espères revenir à 2-1, simplement revenir à 2-1 avant la mi-temps. Il y a après toute une mi-temps pour tranquillement égaliser, voire même après gagner. Mais c'est sûr que sur les trois premiers buts, le premier, c'est sûr qu'il est emmerdant. Mais là, déjà, quand je vois ce tir qui passe sous le ventre de Lopez, je dis, il n'est pas dans un bon jour. Je ne pensais pas, si tu veux, qu'il soit dans un aussi mauvais jour. Et après, le deuxième, OK. Et le troisième, après qu'il y ait eu cette intervention où il a failli marquer contre son camp, qu'il la reprend in extremis sur la ligne ou au ras de la ligne.
Dans un moment où ça allait un peu mieux quand même.
Là, voilà. Donc, je disais, c'est quand même ce troisième. Alors, le quatrième, n'en parlons pas, mais le quatrième, il est dans une organisation avec trois numéros 9 dans 10 mètres carrés. Sincèrement, le match, déjà qu'il était compliqué, je pense, malgré ce, allez, à 4-2, tu te dis, il reste encore 10 minutes, sait-on jamais. Mais bon, il ne faut pas non plus penser qu'on est à Lourdes.
Et le quatrième but, c'est sur, au départ, une perte de balle de Lucas Paqueta, hein, donc lui aussi qui n'était pas dans un grand jour. Et ça nous dessine un peu la problématique lyonnaise. Moi, j'ai revu le match et je sais que dans le staff, c'est incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre pourquoi cette équipe a fait une telle entame. Pourquoi les joueurs arrivent à être stables sur un certain nombre de matchs, parce qu'on l'a noté dans ce podcast qu'il y a quand même une certaine continuité depuis début 2022 dans le jeu, pas dans les résultats, mais au moins dans le jeu. Et Peter Bosz évoque souvent cette stabilité. Et la veille, il nous disait presque qu'il était persuadé que ça y est, les joueurs, ils avaient cette continuité en tête et qu'on n'allait plus être sur ce courant discontinu parce qu'il y avait eu ce beau match face à Lorient. Donc Lorient qui est entre guillemets une petite équipe. Lyon, ça y est, hop, arrive à prendre le dessus et clairement sur une petite équipe. Du côté de Porto, c'est un grand match de Coupe d'Europe avec les mêmes ingrédients, les mêmes joueurs, du mercredi au dimanche, avec les mêmes joueurs, face à une équipe qui ne change pas non plus ses joueurs. Il y a eu un seul changement du côté de Rennes, entre le match de Leicester de jeudi au dimanche.
Je rappelle, Edouard, que Rennes, effectivement, tu l'as dit, coach, a joué 24 heures après Lyon, et est rentré à Rennes à 4 heures du matin le vendredi.
Ouais, en plus.
Et il y a un seul changement dans l'équipe de Bruno Genesio.
Et en ce qui concerne Lyon, Edouard, c'est que il y a un joueur qui est un joueur très intéressant, mais qui est aussi irrégulier qu'intéressant. C'est la recrue Ndombele. Il est en train de démontrer que sur son irrégularité, il passe, si tu veux, d'une note de 18 sur 20 à 2 sur 20. Donc, on préférerait que ce soit 13 ou 14 tous les matchs, tu vois. Et là, sincèrement, Cacré, je ne l'ai pas vu, c'est la première fois qu'il passe à côté. Mais là, il a tout simplement été emmené par tous ses coéquipiers qui passent à travers. Et donc là, ce Ndombele, je vais regarder encore avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ses performances. Mais pour le moment, c'est un coup oui, un coup non.
Comme le Ndombele que l'on avait connu et qui avait quitté en mai 2019. Hein, là, il n'y a pas de changement.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne s'est pas imposé dans le club où il a été transféré.
Un mot quand même, coach, et Edouard, sur la prestation et l'efficacité actuellement de Lucas Paqueta, qui depuis novembre dernier n'est quasiment plus efficace, mon cher Edouard. Je crois que c'est 2 buts, 1 passe,
ouais,
alors qu'il avait démarré la saison avec 6 buts. Il était étincelant, tout le monde s'en souvient bien sûr, on en faisait même le meilleur joueur de Ligue 1 entre août et octobre. Il a disparu également, et hier également. Ça, c'est l'énigme également, c'est une vraie énigme.
C'est une énigme également sur cette continuité. Alors, ce qui est assez affolant, c'est que cette discontinuité à l'OL, ça fait combien, 3-4 ans qu'on la voit, hein, parce que c'était justement quand les supporters pestaient contre Bruno Genesio, ils pestaient contre justement cette continuité qui n'y était pas, et du coup, ils mettaient tout ça sur le dos de l'entraîneur. Et qu'est-ce qu'on voit? Les effectifs changent, les coachs changent, et ça reste Donc ça veut dire que cette, je sais pas, ce côté, bah, une fois qu'on a mis le maillot de l'OL, bah, ça, c'est bon, on a fait l'essentiel et on peut jouer face à son adversaire et surtout on va gagner. Donc on peut appeler ça la suffisance lyonnaise. Et je peux vous dire que ça fait vraiment frémir un certain nombre d'anciens de grandes équipes des années de gloire parce que ils ont dit on a tout construit cette image d'un EL conquérant et puis finalement certains piétinent un petit peu tout ça. Non, on n'arrive pas à continuer et Lucas Paqueta, on l'a fait souvent boulet hein, dans cette émission, dans ce podcast depuis le début 2022. On a même une fois dit où es-tu Lucas Paqueta, où est le Lucas Paqueta du mois d'octobre?
Tu aurais fait quoi comme changement? Je rappelle qu'à la mi-temps, Peter Boss, qui critiquait également dans ses choix, fait deux choix plutôt offensifs, hein, clairement même. Hein. Il fait sortir Thiago Mendes pour Kadewere et Amal Augusto plus offensif qu'un Léo Dubois également.
Toi, ouais, quoi, mais non, oui,
avec
non.
Un changement tactique aussi.
Oui et non, parce que Amal Augusto, qui est un joueur avec des qualités plutôt offensives que défensives, tu le mets troisième arrière central côté droit quand tu vois le Terrier qui s'avance et Amal Augusto n'a pas le réflexe de sortir sur ceux qui s'avancent. Bref, je te donne ma formule, mais je te précise quand même, sans me faire une crise de modestie, que ce n'est pas parce que je n'ai pas la même formule que ce qui s'est passé de penser que la mienne aurait marché. Mais déjà, avec des joueurs qui ont trois bosses sur la tête à la mi-temps, je vais faire quelques changements, mais je ne vais surtout pas faire le changement de l'organisation. L'organisation, je la garde. Que Amal Augusto puisse remplacer Dubois, et ça évitera à Dubois de se faire siffler, OK. Que Thiago Mendes puisse aller prendre la douche, remplacé par Da Silva, OK. Que Aouar puisse remplacer Ndombele, OK. Mais je fais déjà ces trois changements sans changer l'organisation. Parce que si en plus, je change les joueurs, je leur fais changer de poste, je leur fais changer d'organisation, là, sincèrement, c'est quand même beaucoup leur demander, pour ne pas dire trop leur demander.
Cette impression inquiétante,
mais je ne te dis pas que ça aurait marché.
Après 28 journées,
j'aurais fait ça.
Peter Boss tâtonne toujours.
C'était un guignol.
Non, on ne parle pas de Peter Boss, évidemment, hein, qui n'est pas un guignol. Messieurs.
Non, il tâtonne pas toujours. L'organisation, il a trouvé. Là, il essaye de faire un truc à la mi-temps. À la mi-temps, quand on mène 3-0, eh ben, tu essayes. Toi-même, tu es KO. Et ce qu'il fait à la mi-temps, pour moi, bah, on n'a pas un Peter qui est inspiré. Mais avant de parler de Peter Boss, parlons d'abord des contre-performances individuelles de pas mal de joueurs, surtout à des postes clés.
Et parlons de la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Lyon a-t-il dit adieu au podium à 10 journées de la fin pour la troisième saison consécutive? D'ailleurs, et j'irai même plus loin, est-ce que Lyon va réussir à accrocher ne serait-ce qu'une place européenne, hein? Je rappelle que Lyon, saison dernière, termine quatrième de Ligue 1. Je rappelle que Lyon, saison d'avant, interrompue par la pandémie et le coronavirus, termine septième de Ligue 1 après 28 journées. On en est à ce stade-là aujourd'hui. Lyon est dixième à 9 points du podium, à 8 de la quatrième place. Alors, Edouard, est-ce que côté lyonnais, côté supporter lyonnais avec qui tu parles, je le sais, on a tiré une croix sur un podium éventuel, voire une place européenne?
Alors le podium, oui, clairement, parce qu'on est trop loin, disent les supporters. Sur l'Europe, on commence franchement à douter parce que la quatrième place est à 8 points, la cinquième, pour l'instant occupée par Strasbourg, elle est à 6, en sachant que le Lyon va jouer justement Strasbourg et Nantes dans les équipes qui sont devant et toutes les autres équipes pour rattraper des points. Il va falloir déjà que Lyon gagne, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, mais surtout que ces équipes là face des contre-performances. Alors je vous parle pas de Nice et de Marseille qui sont trop loin, mais même une équipe de Lille qui est 2 points devant Strasbourg. Donc même si Lyon va gagner à Strasbourg, il faut gagner à Strasbourg déjà, c'est pas gagné, il faudra encore que Strasbourg trébuche une autre fois, et puis il y a cette histoire du goal average qui est pas vraiment favorable. Imaginez-vous, il faut quand même doubler 5 équipes pour être quatrième. Du coup les supporters se disent que la meilleure route, en tout cas la plus courte en termes de matchs, mais pas forcément en termes de difficultés, c'est l'Europa League. Ouais. Parce qu'on rappelle hein, que le vainqueur de l'Europa League est qualifié en Ligue des Champions. Donc là, certes, il y a un bel atout dans la manche avec la victoire à Porto, mais attention à cette équipe de Porto, parce que le match aller, on n'a pas forcément vu peut-être le meilleur Porto. Puis surtout, moi, j'ai vu une image à la fin du match où les joueurs de Porto se sont tous rassemblés sur la pelouse pour déjà se projeter au match d'après.
Tu vas avoir un Lyon revanchard. OK, revanchard dans des obligations d'être revanchard. Est-ce qu'ils vont réussir à être, être revanchards? Ça, on verra. Toujours est-il que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe devant Lyon. Bah, déjà, malgré que Lyon a la chance que le deuxième et le troisième cette année, qui devraient être normalement avec 55 ou 56 points, c'est-à-dire avec une moyenne de 2 points par match, bah, ils ont 50 points, c'est Nice et l'OM. Malgré ce, récupérer en 10 matchs, c'est-à-dire avec une distribution de 30 points, 9 points sur deux équipes, ça me paraît être compliqué. La place de cinquième, par contre, ne me paraît pas impossible. Celle de deuxième, troisième, oui. Mais je reste moi aussi d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand on a l'exemple de Villarreal, qui est une très bonne équipe, mais qu'on peut quand même ne pas dire que Villarreal, dans le football espagnol, est supérieur à Lyon dans le football français. Donc si Villarreal a gagné la saison dernière l'Europa League, eh ben Lyon peut se dire, pourquoi pas nous.
Bon, je rappelle également qu'il y a du lourd encore en Europa League. Déjà, il faudra sortir Porto, quand même. Il faut le faire,
confirmer. Tu peux nous donner les équipes,
s'il te plaît. Je peux dire que là, pour l'instant, l'Eintracht Francfort est en ballotage favorable après sa victoire au Betis.
Le Barça.
Séville a gagné 1-0 contre West Ham, que le Barça a fait 0-0 contre Galatasaray, mais encore là. Leipzig est qualifié automatiquement, ne jouera pas contre le Spartak Moscou, on sait pourquoi. Que Glasgow devrait se qualifier après son succès 3-0. Que l'Atalanta Bergame, une bonne équipe, est là également. Et puis que Braga ou Monaco passera, bien sûr. On verra. Donc, le chemin est encore compliqué.
Oui, un peu compliqué. Mais,
mais en championnat, c'est pas,
un peu de chance dans les tirages au sort. Avec le deuxième match à Lyon, avec un stade plein à craquer. Oui. Je dis, n'oublions pas l'Europa League, puisque dans tous les cas, depuis le début de la saison, quand on parle de Lyon, quand on parle de Peter Bosz, j'ai l'impression que c'est d'autres joueurs avec un autre entraîneur qui ont fait ce parcours en Europa League qui est quand même parfait depuis le début.
Exactement.
Et même en huitième de finale, tu prends une équipe qui est invaincue à domicile et tu les bats chez eux, c'est Porto. Depuis un an et demi, ils n'ont pas perdu un match à domicile. On peut quand même mettre des critiques sur ce qui s'est passé hier, mais il faut quand même faire des compliments à Lyon sur ce qui s'est passé contre Porto.
Ce serait pas fou d'imaginer que Lyon se hisse au moins en finale de l'Europa League et la joue à fond, bien sûr.
Mais je ne serais pas étonné.
Vas-y,
et quand je dis le chemin le plus court, c'est en termes de match, hein, parce que pour gagner, il y a 6 matchs, hein, parce qu'il y aura le match retour, plus les quarts, plus les demi, plus la finale, et qu'il ne faut pas forcément tous les gagner hein, pour se qualifier. Tu peux gagner un et faire match nul. Tandis qu'en championnat, pour aller en Europe, alors pour aller en Ligue des Champions, il faut presque gagner les 10 derniers matchs, et puis pour aller en Europe, il ne faut
Je regarde le calendrier, mais je rappelle de Lyon.
Je rappelle aussi le règlement. Si Lyon gagne la Champions League, par contre, l'Europa League. Par contre, le troisième, justement, lapsus révélateur.
Pas directement.
Le troisième ne sera pas en Champions League. Hein. Puisque Lyon n'est pas dans les trois premiers.
Je rappelle quand même le calendrier en Ligue 1 de Lyon en fin de saison, qui a priori, avec Lyon on ne sait jamais, hein, semble plutôt abordable.
Mais bien a priori.
Il y aura Reims, Angers, Strasbourg, Bordeaux, Brest, Montpellier. Il y aura Marseille aussi. Ils finiront par Metz, Nantes et Clermont. Peux dire que raisonnablement, si tu te mets un peu en route, quoi, tu peux prendre 20 points et miser effectivement, comme tu disais, sur une cinquième place.
20 points avec ce que tu viens de nous dire là.
Ouais.
Et non, mais pour arriver à terminer les 5 premiers, je pense qu'il faut faire pratiquement un parcours aujourd'hui de 9 victoires et 1 nul.
Ouais, c'est ça, il y a plus de.
Waouh.
Voilà, c'est le joker, tu l'as bouffé hier. Et le nul, il faut le faire à Marseille, hein, parce que si en plus tu perds
tu le fais face à Strasbourg ou à Nantes.
Tu vas me dire que c'est quasiment impossible en fait. Donc voilà quoi.
Dans
10 matchs, tu me demandes, tu me proposes 9 victoires à nul.
Eh ben, mais dans les adversaires que tu nous as donnés,
il y a toujours des équipes qui vont s'arracher pour leur maintien également.
Si tu joues à l'image de Ndombele, c'est sûr que tu vas pas gagner les 9 matchs.
Souvenez-vous, en 2018, les Lyonnais avaient emporté les 8 des 9 derniers matchs.
En 2018, c'est déjà loin, mon cher Edouard.
Oui, mais ça peut se faire.
C'est plus vraiment une tradition désormais 4 ans après. Merci Edouard, merci coach. Allez, voilà pour l'After Lyon. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast OL et à le noter, bien sûr. Mettez 5 étoiles. Allez-y. Merci à vous. Bye bye.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Nicolas Jamain.